Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le coup de poker de Marine Le Pen, condamnée pourtant candidate, elle se pourvoit en cassation et se lance dans la course à l'Elysée. La lutte contre les flammes continue pour les pompiers venus de toute la France contre ces feux qui ravagent le sud du pays. Et l'Argentine, miracule, est revenue de l'enfer jusqu'à en faire pleurer Lionel Messi, mené 2-0 face à l'Égypte. L'Albi Céleste renverse les Pharaons 3-2 et file en quart de finale du mondial face à la Suisse.
Marine Le Pen déjà en campagne.
Attendue dans la Sarthe ce matin du côté de la Flèche au lendemain de sa condamnation en appel pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Elle écope d'un an de prison ferme sous bracelet électronique et d'une peine d'inéligibilité de 15 mois ferme qu'elle a déjà purgée. Elle est donc libre de se lancer à l'assaut de l'Elysée.
Je suis candidate à l'élection présidentielle.
Et vous ne changerez pas d'avis?
Non, je ne changerai pas d'avis, non. J'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
Et Sonia Gobry du service politique RMC nous rejoint ce matin en direct. On vient d'entendre Marine Le Pen aux 20h de TF1. Marine Le Pen assume donc un coup de poker, mais le pari est risqué, Sonia.
Oui, parce que la Cour de cassation pourrait statuer en urgence sur ce pourvoi début 2027. Deux options, soit elle le valide et l'affaire sera rejugée après la présidentielle, soit elle le rejette et là Marine Le Pen risque de se retrouver avec un bracelet électronique à la cheville dans la dernière ligne droite de sa campagne, avec toutes les difficultés que cela comporte pour se déplacer, pour tenir un meeting en soirée. Mais c'est un pari assumé par Marine Le Pen. La décision d'être candidate en 2027, elle l'a prise très rapidement et sans hésitation. Son choix n'a pas été contesté par Jordan Bardella, assure un membre de l'état-major du Rassemblement National. Alors qu'on a vu des divergences ces dernières semaines, les deux têtes du parti veulent afficher leur unité. Marine Le Pen le répète, cette campagne se fera en binôme, c'est, dit-elle, un ticket gagnant.
Sonia Gobry, service politique RMC, une condamnation qu'Emmanuel Macron a refusé de commenter, à l'inverse des opposants de Marine Le Pen, la qualifiant de délinquante, indécente, privilégiée. Édouard Philippe, candidat Horizon, a lui dénoncé sur France 2 son incohérence.
Après avoir dit le mépris qu'elle portait à toutes celles et ceux qui avaient pu avoir mal à partir avec la justice, se trouve deux fois condamnée, mais explique qu'elle peut techniquement faire campagne, ce qui est vrai. Dire, comme elle l'a fait plusieurs fois, on devrait rendre inéligible à vie les gens qui sont condamnés et dire aujourd'hui qu'elle pense que cet article ne s'applique pas. Je vois un nouveau reniement, d'une certaine façon, de Madame Le Pen.
L'autre séquence politique de la soirée, c'est le vote à l'Assemblée nationale de la présomption de légitime défense pour un policier ou un gendarme qui ferait usage de son arme à feu, texte soutenu par le gouvernement, adopté Romain Hougue dans une assemblée sous très haute tension.
Dans un hémicycle chauffé à blanc, prêt à exploser, le résultat du scrutin tombe.
Pour 313 contre 199, l'Assemblée nationale a adopté.
En tribune, des militants opposés à la loi éructent, parmi eux Assa Traoré. Le personnel de l'Assemblée intervient pour tenter de les faire sortir. Dans le même temps, de vives contestations s'élèvent des bancs de la gauche. C'est ça le fascisme au pouvoir, s'écrie l'insoumis Louis Boyard. Immédiatement réprimandé par la présidente de séance. Une grande cacophonie au Palais Bourbon, causée par l'adoption d'une loi qui donne aux policiers la présomption d'usage légitime de son arme à feu. Autrement dit, contrairement à aujourd'hui, tout tir de policier ou gendarme sera automatiquement considéré comme légal, alors que le fonctionnaire devait jusqu'ici démontrer que son geste était réglementaire. Un permis de tuer, disent les associations de défense des droits de l'homme, comme les élus de gauche. Le texte doit désormais être prochainement étudié au Sénat.
Il est 7h05 sur RMC. La chaleur gagne du terrain. 67 départements sont en vigilance orange canicule avec la barre des 40 degrés encore franchie hier à Bordeaux, encore Angoulême, le sud du pays en surchauffe, en proie aux flammes. Deux incendies majeurs sont toujours en cours ce matin dans la Drôme. 2000 hectares ont brûlé dans une zone montagneuse difficile d'accès, compliquant la zone d'accès aux pompiers également mobilisés dans les Pyrénées-Orientales. Ils sont 800 à lutter contre ce feu qui a déjà ravagé 4900 hectares des soldats du feu venus de toute la France, comme cette unité normande appelée en renfort suivie par Rachel Sadodine, envoyée sur place pour RMC.
Après plus de 20 heures de lutte contre les flammes, la pression retombe quelques instants pour ces pompiers normands, loin d'être habitués à de telles images de désolation.
Ça fait 27 ans que je suis pompier. Et un incendie de cette ampleur, ça ne m'est jamais arrivé. C'était la première fois que j'avais vu ça. Ouais. C'est toujours triste en fait, de voir les gens en difficulté, qui ont perdu leur maison, leur bien.
Une fois sa lourde tenue de feu retirée, Julien a pu enfiler short, chapeau et tongs.
Exceptionnellement, on a un petit créneau de repos. On est rentré ce matin à 4 heures. On en profite pour remettre le matériel propre, pour pouvoir repartir sur une prochaine mission.
Juste le temps de prendre une douche, manger un sandwich et de se reposer quelques instants. Simon a 28 ans, c'est son tout premier feu de forêt.
Niveau fatigue, on n'y pense pas trop. On a l'adrénaline. On a notre lieutenant qui est juste ici qui nous fait des préparations pour nous mettre dans un sommeil profond pendant à peu près une heure.
À peine la sieste terminée, le message arrive. Benjamin et ses collègues doivent repartir.
On s'en va sur Vissac. 10 minutes, un quart d'heure, il faut qu'on soit là-bas, donc on s'en va là-bas.
Et dans le camion, de nouvelles lancées des tuyaux pour remplacer le matériel de leurs collègues endommagés par les flammes.
La paix est fragilisée au Moyen-Orient. L'Iran a ciblé ce matin plusieurs bases américaines au Koweït et à Bahreïn en réponse aux frappes menées par les États-Unis plus tôt dans la nuit, justifiées par de nouvelles attaques iraniennes. Les États-Unis rétablissent leurs sanctions pétrolières après que trois navires aient été frappés dans le détroit d'Ormuz.
Et puis le miracle argentin, qualifié en quart de finale de la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Est-ce que n'était pas une montagne que l'Argentine a gravie hier soir à Atlanta, mais une pyramide de ses tréfonds les plus obscurs à son sommet, tombeur de l'Égypte à l'issue d'un match épique mené 2-0 à l'Albi Céleste renverse les Pharaons 3-2, passé par toutes les émotions, tout près de l'élimination, Edgar Grolot.
Oui, deux buts de retard à la 79e minute de jeu et puis Lionel Messi est apparu. Les Argentins ont marqué trois fois en moins d'un quart d'heure, dont un but et une passe décisive de leur capitaine, nommé homme du match.
Ça a été un soulagement pour tout le monde ce qu'il s'est passé, parce que ce n'est pas facile de remonter à un 2-0, mais on ne baisse jamais les bras. On essaye jusqu'au bout. C'est une folie ce qu'a fait cette équipe. Je suis très heureux que les gens puissent continuer à crier et profiter de ce qu'on réalise et j'espère qu'on va continuer.
Lionel Messi était en larmes au coup de sifflet final, tout comme son sélectionneur Lionel Scaloni qui a craqué en pleine interview.
Je n'arrive même pas à vous regarder, désolé. Je suis très ému. Quel groupe de joueurs!
Pour l'entraîneur argentin, c'était bien plus qu'un huitième de finale.
C'était pas une finale, mais la magnitude de cette rencontre est comparable à beaucoup de grands moments qu'on a vécu. Les émotions qu'un match de foot nous donne, nous les Argentins, c'est inégalable. C'est pour ça que je suis entraîneur.
Joueurs et staff ont chanté en chœur en rentrant au vestiaire. Ils affronteront la Suisse en quart de finale.
La Nati, vainqueur de la Colombie au tir au but. Pas de foot aujourd'hui, c'est une première depuis le début de ce mondial. Avant le début des quarts de finale, demain, France-Maroc, 22h sur RMC, arbitré par Facundo Tello et ses quatre assistants, tous argentins. Et puis le Tour de France, avec du plat au programme de la cinquième étape promise aux sprinteurs entre Lannemezan et Pau, à suivre sur RMC avec un nouveau maillot jaune, Thorsten Train, coéquipier d'échappée de Mats Petersen, vainqueur hier à Foix.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. Vous le savez, toute la semaine, on vous offre vos vacances. On vous offre vos vacances sur RMC, vos vacances à la mer ou à la montagne. Remportez un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellambra, le spécialiste des clubs de vacances pour les familles de France. Vous allez pouvoir choisir parmi 45 destinations dans les plus beaux endroits de France où Bellambra s'occupera, et ça c'est ma partie préférée j'avoue, des enfants, des activités et des repas. C'est le tout compris premium et on vous l'offre pour remporter votre séjour Bellambra. Vous envoyez tout de suite vacances au 732-16. Vacances au 732-16. Bonne chance à tous.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et vous êtes très nombreux, très très nombreux ce matin à nous appeler, à nous mettre des messages sur le WhatsApp pour réagir à la condamnation et à la candidature de Marine Le Pen. Bonjour Maude.
Bonjour Apolline, je suis ravie de vous avoir au téléphone.
Eh bien, soyez la bienvenue. Maude, vous nous appelez d'Olivet dans le Loiret. Je crois que vous êtes enseignante. Vous vouliez réagir. Pour vous, c'est un scandale, elle ne devrait pas y aller.
Absolument. Je crois qu'on a perdu tout bon sens dans ce pays. On marche sur la tête. On a d'un côté une Marine Le Pen, il y a quelques années, qui nous dit « Ah là là, si jamais un homme politique est condamné, inéligibilité. »
J'avoue que je me suis entraînée.
Ouais, voilà, vous m'avez compris, c'est le principal. Voilà. Avis, alors faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Je trouve que si elle était élue, Moi, en tant que citoyenne lambda, j'accepterai le verdict, même si je suis pas une pro-RN. Mmh. Néanmoins, avoir une présidente de la République qui est condamnée par la loi à deux reprises, bah, j'avoue que ça me fait un petit peu tiquer et moi, j'ai mal à ma France. Je trouve que pour être présidente de la République, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Et là, c'est du grand n'importe quoi. Et les électeurs RN sont les premiers à dire pique-pendre quand vous avez des opposants politiques qui sont condamnés ou en disant qu'il faut mettre tous les criminels en prison. Mmh. Là, elle a même pas fait de prison alors qu'elle a été condamnée à un an. Alors, moi, je ne comprends plus, là. C'est le grand paradoxe.
Passionnant aussi vos réactions ce matin, Maud, c'est très intéressant. Vous dites presque, voilà, si elle est élue condamnée, pour moi, j'ai plus de mal à accepter même le verdict des urnes. Merci beaucoup, Maud, d'être venue au 32-16. Le décor est posé ce matin et le débat est lancé. Il est 7h11 et écoutez justement ce que disait Marine Le Pen hier soir.
J'étais heureuse qu'on rende aux Français leur liberté de voter. Et que la Cour me rende mon éligibilité. Il n'y a plus de scénario où je ne pourrais pas me présenter en 2027.
Marine Le Pen, donc je le disais, condamnée mes candidates et qui annonce qu'elle se pourvoit en cassation. Ça va marcher comment? Quel est le déroulé? Comment on fait pour se projeter? Bonjour Ludovic Friat.
Bonjour.
Vous êtes le représentant de l'Union syndicale des magistrats. Décision qui peut paraître surprenante de la part de Marine Le Pen. Certains parlent de poker, de pari. Quelle est la réalité juridique derrière? Marine Le Pen exerce son droit à la justice qui devra répondre rapidement. Voilà votre parti pris, vous nous le dites dans un instant.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, il est 7h15 sur RMC et RMC Story. Tout comprendre ce matin, la déflagration juridique et l'enjeu politique autour de ce qu'il s'est joué pour Marine Le Pen hier. Condamnée pour détournement de fonds publics, mais candidate et elle se pourvoit en cassation. Bonjour Ludovic Friat.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'Union syndicale des magistrats, le premier syndicat de la profession. Marine Le Pen annonce qu'elle est candidate, qu'elle se pourvoit en cassation et que cela aura pour conséquence, un, qu'elle peut dire qu'elle est innocente, elle est en tout cas considérée comme innocente aux yeux de la justice, puisqu'elle repart à zéro en quelque sorte, et deux, qu'elle pourra faire campagne sans bracelet électronique. Est-ce que c'est juste?
Pas tout à fait. Dire qu'elle est considérée comme innocente, on est sur une condamnation qui a été rendue en appel. Et une condamnation, effectivement, pour des faits qui sont graves au terme de notre code pénal, puisque c'est une infraction qui est punie de 10 ans d'emprisonnement. C'est le maximum encouru en matière correctionnelle. Elle a fait un pourvoi en cassation, ce qui est parfaitement son droit, hein, c'est légitime. Ceci étant, ce pourvoi n'efface pas la décision de la cour d'appel qui a été rendue hier. Il ne fait qu'en suspendre les effets dans l'attente de ce que le pourvoi...
Il n'efface pas sa condamnation. Elle est coupable.
Aujourd'hui, elle est condamnée. Mais effectivement, puisqu'elle a fait un pourvoi en cassation, il faut bien que nos auditeurs aient conscience de cette, on va dire, cette, ce qui n'est pas qu'un détail. Le pourvoi en cassation, ça ne fait pas rejuger toute l'affaire dans les faits, dans le fond du dossier, comme un appel. C'est uniquement sur le droit, sur des questions de droit. Là, en l'espèce, on peut penser que l'action de droit soulevée, c'est l'article du code de procédure pénale qui est appliqué aux personnes qui ont été condamnées, ne serait pas applicable en matière européenne. En fait, grosso modo, ce que soutient Marine Le Pen et ses avocats, c'est que cet article ne joue que dans le cadre national, on va dire, que pour les élus ou les responsables locaux, et non pas en matière européenne.
Or là, il s'agit d'une affaire européenne. Ludovic Friat, concrètement, elle ne portera donc pas de bracelet électronique, en tout cas pas jusqu'à ce que la Cour de cassation rende sa décision.
Absolument, pas dans l'immédiat, puisque...
Qu'est-ce qu'elle risque? Imaginons les différents scénarios. Premier scénario, la Cour de cassation confirme la peine qui a été prononcée hier. Dans ce cas-là, imaginons que ça arrive quoi, en janvier, février, à quel moment ça peut arriver au plus tôt? Et donc avoir pour conséquence un port de bracelet électronique à la fin de la campagne?
Il me semble avoir entendu le procureur général près de la Cour de cassation dire « Nous nous mettons en situation de pouvoir juger ceci assez rapidement », c'est-à-dire début 2027, effectivement, en janvier, février. Bon.
Alors pardon, on va être un peu technique, mais ça veut dire, imaginons début février.
Oui.
Imaginons que début février, la décision de la Cour de cassation, c'est donc, oui, Marine Le Pen est bien coupable, nous ne cassons pas la décision de la Cour d'appel de Paris. Alors, on arrive quoi en mars pour un premier rendez-vous avec le juge d'application des peines qui va décider si oui ou non et dans quelles conditions elle porte son bracelet. Au plus tôt, elle a un bracelet quoi? En avril?
C'est là tout le pari de Marine Le Pen. En fait, elle est, si j'ose m'exprimer ainsi, elle a un pied sur l'accélérateur pour les élections présidentielles. Elle veut y arriver le plus vite possible, le plus tôt possible, et un pied sur le frein sur le judiciaire. À savoir, il est probable que ses avocats fassent de multiples demandes, de multiples recours dans le cadre de ce pourvoi en cassation. On peut imaginer, par exemple, là, je suis pas dans leur tête, une question prioritaire de constitutionnalité qui serait posée devant la Cour de cassation. Et si elle était reçue, on repartirait devant le Conseil constitutionnel pour sans doute plusieurs semaines.
Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que même au pire scénario pour elle, c'est-à-dire que la Cour de cassation ne confirme ce qui a été décidé par la Cour d'appel hier, en réalité, elle a rien à perdre.
En réalité,
par rapport au calendrier électoral, elle n'avait rien à perdre.
Si je reprends effectivement ce que je vous disais sur le pied sur le frein et le pied sur l'accélérateur, on va voir si elle part en drift judiciaire ou pas. Mais exactement, son pari, c'est de se dire finalement, très rapidement, je serai dans la campagne, je serai à la campagne. Sans doute, le judiciaire va prendre du temps. Donc, je tente ceci.
Alors, imaginons quand même l'autre scénario, pardon, mais je voudrais tirer tous les fils, qu'on ait vraiment toutes les cartes en main ce matin. L'autre scénario, c'est la Cour de cassation casse le jugement. Oui. On repart où ?
Il y a deux solutions, on va dire, intellectuellement. Elle casse sans renvoi, grosso modo, elle dit l'article sur lequel s'est fondé le tribunal, puis la Cour d'appel n'est pas applicable au cas d'espèce. Donc là, quasiment, ça pourrait s'arrêter là. Soit, effectivement, elle casse et elle renvoie à une nouvelle juridiction, une nouvelle cour d'appel.
Et dans ce cas-là, on repart.
Et dans ce cas-là, c'est reparti.
Zéro.
Alors, si entre-temps, Marine Le Pen est élue à la magistrature suprême, clairement, ça c'est la jurisprudence Chirac qu'on connaît tous, pendant le temps de son mandat, on ne peut pas, effectivement, instruire contre elle.
En fait, de ce que l'on comprend avec vous, Ludovic Friat, c'est que, quel que soient les scénarios, quel que soit le fil que l'on tire, elle est, en quelque sorte, tranquille jusqu'aux élections.
J'ai pas la réponse absolue. On peut imaginer que la Cour de cassation écarte, par exemple, une demande de question prioritaire de constitutionnalité et statue rapidement. Ça serait le pire des scénarios pour Marine Le Pen, puisque effectivement, on se retrouverait dans un arrêt qui serait exécutoire, qui serait définitif. L'autre risque aussi qu'elle prend, puisqu'il y a ce petit risque-là, c'est si effectivement c'est renvoyé devant une autre juridiction, et même si c'est repoussé à plusieurs mois, voire plusieurs années si elle est élue, on risque de faire revivre, selon une jurisprudence, la décision de première instance, à savoir elle serait inéligible pour 5 ans.
Et cette question, c'est que malgré tout, même si le calendrier désormais lui laisse faire campagne au moins quelques mois, il y a toujours cette idée qu'elle a été condamnée, quoi qu'il arrive, elle a été condamnée par deux juridictions, l'une puis l'autre. Je voudrais qu'on puisse donner la parole à Nicolas. Bonjour Nicolas.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Nicolas? Vous êtes chauffeur routier dans la Nièvre. Ça vous choque qu'elle soit candidate?
Ouais, ça me choque. Et c'est même pas choqué, en fait, c'est déçu. Il y a quelques temps, elle a dit que sous bracelet électronique, elle ne ferait pas campagne, elle ne pouvait pas être candidate. Là, hier, tout le monde attendait la décision. Elle aura un bracelet électronique, même si elle va se pouvoir en cassation. Et elle revient sur sa parole, elle arrive aux 20h, elle dit « je suis candidate ». Bah, je suis désolé, moi j'ai voté RN aux deux dernières présidentielles, à la dernière législative. Et là, je suis en train de me dire, finalement, cette dame, elle n'a pas de parole. Elle est comme beaucoup de politiques, elle n'a pas de parole.
Dans ces cas-là, vous vous abstiendrez? Alors, techniquement, Nicolas, elle ne fera pas campagne sous bracelet électronique. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs ce qu'elle dit hier. Elle dit, j'ai dit que je ne ferai pas campagne avec bracelet électronique, mais je n'en aurai pas puisque je me pourvois en cassation. Elle n'aura pas de bracelet électronique. Hein.
Voilà, elle se pourvoit en cassation. Mais si elle s'en réfère à la décision de justice qui
Tout
a été
fait.
Donnée hier, elle n'aurait pas dû faire campagne selon ses dires. Quand elle a dit qu'elle ne ferait pas campagne avec un bracelet électronique, elle n'a pas dit, de toute manière, si on me condamne avec un bracelet, je me pourvoirai en cassation.
Ça a pris tout le monde de court. Nicolas, quand même une question. Ça veut dire que vous vous abstiendriez, vous n'avez pas pour autant d'autres candidats en tête?
Bah, ça ne se dit pas à l'heure d'aujourd'hui, mais... À l'heure actuelle, non. À l'heure actuelle, pour l'instant, j'ai personne. Donc, comme j'ai dit au standard, je vais suivre la campagne, je vais regarder ce que chacun propose.
Mais au moment où on se parle... Au moment où on se parle, vous savez quoi, vous nous rappellerez, Nicolas, quand vous y verrez plus clair. En tout cas, merci beaucoup pour votre réaction. Ludovic Fria, merci à vous pour de nous avoir éclairé, même si on comprend qu'il reste une zone de pari quand même, effectivement, dans cette décision. Ludovic Fria, vous êtes le président de l'Union syndicale des magistrats, le premier syndicat de la profession. Il est 7h23. Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur. C'est Dragon Ball Z, le plus célèbre manga japonais que l'on entend là, la culture manga qui déferle sur la France.
Et oui, avec l'inauguration demain de la Japan Expo, le plus grand rendez-vous des amateurs de manga, un phénomène qui ne cesse de grandir en France.
Et vous nous le dites dans 60 secondes, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h25 et c'est l'heure de remonter le temps avec Arthur Chevalier. Arthur, début demain de la Japan Expo au nord de Paris, le rendez-vous annuel des fans de manga. 200 000 visiteurs attendus jusqu'à dimanche.
Et oui, c'est la 25e édition. La Japan Expo, c'est le troisième plus grand salon français. Après le salon de l'auto et celui de l'agriculture, une success story qui traduit une vraie passion pour cette partie du monde asiatique.
De quand date le premier vrai manga ?
Alors, le terme arrive au 19e siècle. Un manga, ça veut dire image dérisoire, croquis si vous préférez. Et son créateur, il s'appelle Hokusai. Hokusai, c'est un des plus grands dessinateurs japonais et il imagine une série de 15 histoires illustrées avec des petites images qui racontaient donc des scènes du quotidien. Alors à cette époque, il n'y a pas de dialogue et cette première sorte de manga va avoir énormément de succès au Japon, comme quoi il y avait vraiment un public. Hein.
Quand est-ce que ça va se populariser et notamment à l'échelle du monde ?
Alors en 1901, un artiste japonais, Rakuten Kitazawa, commence à publier des mangas dans un journal. Cette fois, il y a du texte, pas beaucoup, mais un peu, mais le tournant... C'est juste après la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 40 et au début des années 50, puisque les Américains occupent le Japon, qui avait perdu la guerre, et avec eux, les Américains, ils apportent les fameux comics. Vous savez, ces bandes dessinées avec des super-héros, les Japonais adorent. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils ont l'idée de mélanger comics et manga. Ils ajoutent donc des dialogues dans des bulles, ils mettent des dessins dans des cases. Le manga moderne était né.
Extraordinaire. La France est le deuxième pays du manga.
Et oui, incroyable, mais vrai. C'est en France qu'on vend le plus de mangas après le Japon. Les chiffres, 1 livre sur 10 vendu chez nous est un manga. En 2024, ça représentait 35 millions d'exemplaires vendus. C'est stratosphérique.
Comment on explique un tel engouement ?
Alors, on le doit surtout à une émission de télévision pour les enfants. Une émission de télévision qui s'appelait Le Club Dorothée.
Bah, évidemment.
Et oui, voilà.
Présenté. Vous en parlez, ça vous paraît vraiment voilà, de l'histoire, si vous voulez. Mais nous, c'est insolent. Le Club Dorothée, c'est notre vie, quoi.
C'était présenté donc par une certaine Dorothée. C'était archi populaire. C'était archi populaire à la fin des années 80 et dans les années 90. Et justement, cette émission diffusait des dessins animés japonais.
Bioman.
Dont le fameux Dragon Ball Z, où tous les codes de la culture japonaise était là. Donc voilà en partie ce qui a préparé le triomphe du manga est, donc au Moyen-Âge.
Mathieu, ça y est, on fait partie de l'histoire.
C'était sous Rocard, non ?
Je savais que vous alliez le prendre mal.
Arthur Chevalier, il est 7h27 et donc la chronique d'Arthur est évidemment à retrouver à tout moment. On se retrouve dans un instant sur RMC pour la météo et le journal. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Ultime recours, pari risqué. Marine Le Pen, laissée présidentiable mais reconnue coupable par les juges, se lance dans un pourvoi en cassation pour s'éviter une campagne sous bracelet électronique. 9 élèves de maternelle qui accusent insuffisant pour balayer le bénéfice du doute, estime la justice. Un animateur périscolaire relaxé à l'issue de son procès pour agression sexuelle et à une semaine du 14 juillet, déjà des annulations de feux d'artifice pour ne pas engendrer plus d'incendies qu'il n'y en a déjà.
Marine Le Pen, bel et bien en campagne présidentielle ce matin.
Attendue dans la Sarthe, libre de ses mouvements malgré sa condamnation pour détournement de fonds publics hier, parce qu'elle a écopé de 15 mois d'inéligibilité ferme qu'elle a déjà effectuée et parce qu'elle a décidé de se pourvoir en cassation, ce qui suspend l'année de prison ferme qu'elle devait passer sous bracelet électronique. Ce choix, il satisfait la plupart de ses électeurs dans son fief d'Hénin-Beaumont, Lucas Laubert.
C'est sur son téléphone dans les rues d'Hénin-Beaumont que Maxime, jeune électeur du Rassemblement National, a suivi l'interview de Marine Le Pen. L'annonce de cette candidature, pour lui, c'est beaucoup de soulagement.
Moi, je suis très content dans le sens où je voulais qu'elle puisse se porter aux élections présidentielles.
Pour le coup, elle se présente, mais elle a été condamnée. Ça change rien.
Je trouve pas que ça pose de problème dans le sens où on voit qu'il y a quand même beaucoup de Français qui se sont rapprochés de Marine Le Pen. Et je trouve que c'est très important aujourd'hui qu'elle puisse faire campagne.
Pour Ali, au contraire, le RN se tire une balle dans le pied.
Comme elle dit, elle, les mains propres, c'était son slogan au Front National. Et là, les appuis, les mains propres. Apprends quand même de perdre une partie de son électorat. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que par exemple, ça n'aurait pas été mieux ?
Marine Le Pen compte se pourvoir en cassation, ce qui suspend le port du bracelet électronique, mais elle prend le risque de devoir en porter un dans la dernière ligne droite de la campagne si elle était définitivement condamnée avant l'élection. Léo, mécanicien et électeur du Rassemblement National, n'y voit pas de problème.
Les gens depuis des années qui veulent voter Marine Le Pen, on attend, ils vont pas changer à la fin comme ça fusil d'épaule. Quoi.
Illustration parfaite avec Jérôme.
Ah non, ça me gêne pas. Pourquoi ça freinerait une personne dans sa campagne ? On a tous fait des erreurs et bien on a tous droit au pardon.
Avant de conclure, oui, je la soutiendrai et ce, quoi qu'il arrive.
Alors quel impact dans l'opinion publique ? On en parle juste après ce journal avec Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut de sondage IFOP. On en vient à l'immense colère des parents d'élèves du périscolaire parisien. Un animateur accusé d'agression sexuelle par 9 enfants de maternelle a été relaxé. Hier, Constance Bostoen du service police-justice de RMC, les justifications du juge ont révolté ses parents.
À l'annonce de la relaxe, plusieurs parents se sont effondrés en larmes. D'autres se sont levés scandalisés en criant qu'il fallait écouter leurs enfants. Quelques minutes plus tard, l'une des mamans laisse éclater sa colère à la sortie de la salle d'audience.
Un délibéré très dur. On avait suffisamment d'éléments dans le dossier. On a 9 enfants qui aujourd'hui sont traumatisés. On vient de vivre une année et demie de calvaire où toute notre vie a changé. Et aujourd'hui, on avait de l'espoir de se dire que la France allait entendre en tout cas les messages, la parole des enfants. Le fait est, c'est que cette personne va sortir complètement libre.
Le président a justifié la relaxe. Faute d'éléments matériels suffisamment constitués et, je cite, au bénéfice d'un doute très sérieux. Il a souligné aussi le fait que les témoignages des jeunes victimes avaient pu être influencés par leurs parents. Ce dernier point a particulièrement scandalisé Caroline, maman d'un petit garçon de 3 ans et demi.
J'ai eu l'impression d'être à mon procès à moi en tant que maman, parce que là on m'a clairement dit que j'avais influencé sa parole. Comment voulez-vous influencer des symptômes, des pipis au lit, des infections urinaires, des cauchemars, comment voulez-vous inventer ça, comment voulez-vous influencer ça?
Le parquet avait requis 3 ans de prison, dont un ferme sous bracelet électronique. Il a désormais 10 jours pour faire appel.
Et notez que l'homme a malgré tout été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel sur 2 de ses collègues. Les incendies dans la Drôme. D'abord, on a atteint les 2000 hectares parcourus par le feu des colonies de vacances. 473 enfants au total ont été évacués hier. Et puis la crainte d'un regain d'intensité des flammes dans les Pyrénées-Orientales aujourd'hui. Après la calmie d'hier, le vent doit se lever à nouveau. Il va donc s'ajouter à ces canicule qui s'est étendue, 67 départements en vigilance orange. Des records pour un mois de juillet ont été battus à plus de 40 degrés hier à Castelnaudary, à Carcassonne, à Auch ou encore à Angoulême, à tel point que certaines communes prennent les devants et annulent ou reportent par précaution les feux d'artifice du 14 juillet. Jean-Wilfried Forquès.
Des sols secs, des températures caniculaires à Bourg-les-Valence, dans la Drôme, la maire Marlène Mourier n'a pas voulu prendre le moindre risque. Elle a opté pour le report du traditionnel feu d'artifice.
Les habitants ont très très bien réagi. Ils ont compris l'importance de la situation. Et surtout, ce qui est revenu dans les échanges que j'ai pu avoir avec eux, il faut préserver nos pompiers.
Préserver les pompiers mobilisés sur l'incendie en cours dans les Pyrénées-Orientales, c'est aussi l'objectif du préfet du département qui encourage les maires à annuler leurs feux d'artifice. Annulations qui se multiplient en France, dans la Creuse, en Ardèche, dans la Sarthe ou encore en Franche-Comté, où Émilie Chenu gère une entreprise de feux d'artifice. Elle a déjà reçu une vingtaine d'appels de maires.
La décision, elle est claire, nette et précise. On ne veut pas prendre le risque de mettre en péril la société, d'aller mettre le feu aux alentours. Et puis tout simplement aussi pour les communes, parce que je veux dire, le coup de pub, il serait terrible. Autant pour eux que pour nous, on peut pas prendre le risque. C'est une question de bon sens.
La plupart du temps, les communes choisissent de reporter les festivités à la fin de l'été.
Prudence des autorités et alerte d'une association de consommateurs ce matin. C'est peut-être votre crème solaire qui est incriminée par une étude de Que Choisir. Ces tests sont formels. Certains de ces produits sont dangereux, Romain Houg, avec les suspects habituels, les plateformes chinoises.
Oui, dans le viseur de Que Choisir Ensemble, Temu, Shein et AliExpress, l'association a testé 10 crèmes solaires vendues sur ces 3 plateformes. Les conclusions sont alarmantes. 9 ne sont tout simplement pas conformes. Dans le détail, parmi les produits testés, testés. 3 sont éliminés d'office. Ils contiennent un produit interdit dans l'Union européenne. Sur les 7 produits restants, 6 échouent à protéger à hauteur de l'indice annoncé. Et parmi eux, 4 ne bloquent même pas du tout les rayons UV. Reste un seul produit. Problème, il renferme un ingrédient qui a montré une perturbation des œstrogènes et de la fonction thyroïdienne, dit l'association. Autrement dit, c'est un 0 sur 10. Aucune crème ne trouve pleinement satisfaction quand elle n'est pas carrément dangereuse. Contactés par Que Choisir Ensemble, les 3 plateformes ont annoncé avoir retiré les produits incriminés, mais rien ne garantit que ces produits ne réapparaissent pas sous d'autres annonces, inquiète l'association qui a annoncé saisir l'ARCOM et signaler ces cas à la répression des fraudes.
Les explications de Romain Hougue pour RMC. Reprise des frappes au Moyen-Orient après celle de Washington sur l'Iran. Hier, Téhéran répond en ciblant des bases américaines au Koweït et au Bahreïn ce matin. Et les États-Unis accusaient leur ennemi d'avoir visé des navires dans le détroit d'Ormuz ces derniers jours. Et puis je vous donne les derniers résultats de la Coupe du Monde de foot. Qualification en quart de finale de l'Argentine qui a renversé l'Égypte dans les 10 dernières minutes. Score final 3-2 pour les Argentins. La Suisse, elle, est venue à bout de la Colombie au tir au but. Pas de match au programme aujourd'hui. Petit repos avant le début de ces quarts de finale avec ce Maroc-France. Demain à suivre sur RMC.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome de Pornichet la Baule.
À départ à 18h30, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 8, Jolly Doll. Son outsider, le 11, Jiminy Cricket, le 8 et le 11.
C'était le journal de Victor Pourchet. Il est 7h38 sur RMC. Marine Le Pen sera donc candidate du RN en 2027. C'est elle qui l'assure hier soir à la télévision. Condamnée, mais déterminée, Marine Le Pen lance sa campagne pour une renaissance. Voilà ce qu'elle dit. Elle sera d'ailleurs sur le terrain dès aujourd'hui. Bonjour Frédéric Dabi.
Bonjour.
Vous dirigez l'Institut de sondage IFOP. On va essayer de comprendre avec vous, après les conditions juridiques que l'on vient de voir avec un magistrat, là avec vous, sondeur, analyste, quelles peuvent être les réactions des électeurs RN, mais du reste des électeurs également. Peut-elle véritablement faire campagne avec cette épée de Damoclès malgré tout sur la tête? Votre réponse dans un instant et vos témoignages à vous tous qui nous écoutez, témoignages, réactions, questions, le 32-16 vous est ouvert.
RMC, jusqu'à 9h, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 sur RMC et RMC Story. Et cette question, évidemment, quelle campagne attend Marine Le Pen? Condamnée, elle se pourvoit en cassation et lance sa bataille pour la présidentielle. Bonjour Frédéric Dabi.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'Institut IFOP. Vous sondez régulièrement les Français. Marine Le Pen, candidate, mais avec une épée de Damoclès sur la tête, même si on a bien compris que juridiquement, elle devrait être à peu près tranquille jusqu'au printemps. Ça change quoi d'être candidate condamnée?
Oui, ça change. Il y a vraiment deux logiques qui se font face. D'un côté, une logique qui va être forte quand même dans l'électorat RN. Hein. C'est naturel pour eux qu'il y ait une candidature Le Pen. C'est la 9e depuis 1974, c'est la 4e de suite pour Marine Le Pen. Elle a été 2 fois au second tour, faut pas l'oublier. Donc auprès de cet électorat-là, le côté mère courage, résiliente, revenu du diable Vauvert, qui se sacrifie pour le pays.
Il fonce.
Voilà,
qui fonce malgré tout,
même pas mal comme disent les jeunes, et qui va toujours plus que jamais installer une proximité identificatoire. Elle me ressemble, elle est comme moi, c'est une mère de famille, divorcée, qui connaît en plus qu'elle a cette expérience et cette densité. Donc dans une logique de premier tour, c'est plutôt intéressant. Pour Marine Le Pen, 2 fois de suite qualifiée pour le second tour, il faut penser au second tour. On peine aujourd'hui, ici et maintenant, à imaginer un RN absent du second tour. Voilà. On se souvient de la campagne de François Fillon.
Et au second tour, vous dites, Frédéric Dabi, que pour rassembler, c'est-à-dire pour aller c'est chercher élargir, au-delà de son électorat habituel, c'est là que ça peut coincer.
Ça peut coincer parce qu'il y a une logique d'élargissement, de rassemblement, d'élimination. Vous connaissez la célèbre phrase de Charles Pasqua, qu'est-ce que c'est qu'une élection? Au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. Est-ce qu'on envoie quelqu'un qui risque d'être condamné définitivement après avis de la Cour de cassation? C'est une vraie question. Puis je pense également, hein, je mets en parallèle, même si ça n'a rien à voir, François Fillon n'était pas condamné quand il a fait campagne, c'était le début d'une affaire assez lourde. Il y a le côté brouillage. Les casseroles, systématiquement des questions sur son affaire, la difficulté de parler de sujets au cœur de l'électorat RN, l'insécurité, la délinquance sur le vote. Mais vous avez organisé un
vous
système.
Vous imaginez déjà un débat de second tour ou face à elle.
Bien sûr.
Les arguments sont tout trouvés.
Mais oui, ça me paraît tout à fait compliqué. Maintenant, c'est vrai également qu'il y a le cas Jordan Bardella, qui est le grand absent. Il a été évacué. Moi, je conteste l'idée qu'il fut un plan B, ou il fut un remplaçant. C'est un plan A. C'est le chef du parti. C'est celui qui a amené le Rassemblement National à la victoire dans trois élections importantes, les européennes de 2019-2024, le premier tour des élections législatives. Dans les dernières enquêtes IFOP fiduciales pour le Figaro et LCI, on a vu un Jordan Bardella avec un potentiel électoral supérieur de 5 à 6 points à Marine Le Pen. Alors, est-ce que c'était que des électeurs RN avaient intériorisé, anticipé que peut-être Marine Le Pen soit empêchée, ou est-ce que c'était une vraie préférence? On le verra dans les prochaines enquêtes. Peut-être ils ne partiront pas au même niveau, même si le socle est quand même supérieur à 30, qui est le score du RN à toutes les élections depuis 2020.
Et réussiront-ils à maintenir ce tandem? On verra d'ailleurs, on aura la réponse dès ce matin, puisqu'ils seront ensemble, côte à côte, en déplacement pour le premier déplacement de campagne.
À la flèche.
Jérémy nous appelle au 32-16. Bonjour Jérémy.
Bonjour Apolline.
Vous êtes chauffeur, livreur dans l'Isère. Vous regrettez qu'elle maintienne sa campagne de Marine Le Pen?
Oui, en fait, ça renvoie pas un super message, parce que justement, vous venez de le dire, on ne pourra pas faire des débats sur justice et sécurité sans venir à parler de ces affaires judiciaires.
Sans qu'on se dise « et vous, quoi ?»
Et vous, voilà, exactement. Mmh. L'exemplarité, elle commence par là. Mmh. Moi, comme j'ai dit dans mon message sur Direct Studio, on ne peut pas parler de la justice, il n'y aura pas de débat sans qu'on fasse référence à elle. Et vous, Madame Le Pen, quand est-ce que vous montrez l'exemple? C'est ça le problème. Encore une fois...
Jérémy, mais vous votez qui habituellement?
Moi, j'aurais plutôt une complaisance pour le RN, bien D'accord. que ça m'est arrivé de ne pas forcément voter pour eux. Moi, ce qui m'importe pour moi et l'avenir de mes enfants, c'est surtout ce que proposent les différents partis politiques. Je ne vais pas m'arrêter forcément au RN.
Mais est-ce que ça veut dire, Jérémy, par exemple, que cette fois-ci, vous vous dites, si je trouve un autre candidat qui me plaît davantage, je préfère ne pas voter pour elle?
Ah, mais moi, je ne vais pas me gêner. Ce n'est pas parce que ce serait Le Pen ou Bardella. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est les valeurs de la République française. Donc, jusque-là, le RN le représentait bien, mais l'entêtement de Marine Le Pen à vouloir se représenter me fait penser à Mélenchon. Moi, la République, on la sert, on ne se l'appartient pas. Je ne sais plus qui c'est qui l'a dit il n'y a pas très longtemps, mais pour moi, ce sont des serviteurs de l'État, il ne faut pas l'oublier.
Et donc, tout d'un coup, vous mettez dos à dos Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.
Regrettablement, regret, oui, de l'admettre que là, pour le coup, le message n'est pas très bon, quoi.
Très intéressant. Merci de votre témoignage, Jérémy. Jérémy, donc chauffeur livreur dans l'Isère. Frédéric Dabi.
C'est très intéressant ce qu'a dit Jérémy. Il met en avant une rhétorique célèbre du Rassemblement National, même du Front National de Jean-Marie Le Pen, le tous pourris, la bande des quatre. Sortons-les. Quand même, dans l'électorat RN et même dans l'ensemble de l'électorat français, on se souvient de la campagne compliquée de Jacques Chirac qui était cerné par les affaires, ça ne lui a pas coûté. Les Français, vilipendent, dénoncent davantage un tous impuissant à régler les problèmes du pays du côté de la classe politique que le tous pourri. N'oublions pas que la force du RN, c'est la dimension d'alternative. Ceux qui n'ont jamais été essayés, pourquoi pas elles, ils font pas pire que les autres. Et là, c'est déconnecté des affaires. Mais c'est vrai que le RN perd un de ses moteurs de propulsion qui est l'exemplarité, la probité par rapport à une classe politique corrompue.
La question de l'exemplarité, évidemment. Au fond, quand je vous écoute, Frédéric Dabi, vous vous dites peut-être qu'elle aurait dû laisser la main à Jordan Bardella.
Ah, c'est pas à moi de le dire.
Aux yeux de ce que vous connaissez de son électorat.
Dans ce qu'on voit dans l'état de l'opinion, quand on voit la force de séduction auprès d'électorats acquis et potentiels du RN, la percée de Jordan Bardella à droite, où il a des scores de popularité et même d'attention de vote supérieure à Marine Le Pen.
Et si eux se disent, oui, mais il sera Premier ministre, ça ne suffit pas.
Alors, c'est clair. Alors, on va évacuer les comparaisons avec le passé. Traditionnellement, ça ne marche jamais un ticket sous la 5e République. On se souvient de Ferme à Défense, etc. Il y a un candidat, Nicolas Sarkozy, en 2007, qui avait dit très clairement, mais plutôt en fin de campagne, en février-mars 2007, j'aurai un Premier ministre et il s'appellera François Fillon. Mais on va se parler très très franchement. Il y avait un émetteur Sarkozy si fort, si consensuel et qui crée un tel enthousiasme auprès des Français qu'on entendait peu François Fillon. Là, ce serait un Jordan Bardella qui, lui, je dirais, est beaucoup plus fort que ne l'était le Premier ministre François Fillon. Mais c'est vrai que cette idée de ticket est plutôt intéressante parce que il peut ratisser large, même si, je le répète, le second tour, ça se joue sur énormément de choses et notamment qui, à qui je donnais les clés de la Maison France.
Merci beaucoup Frédéric Dabi pour votre analyse, directeur général de l'Institut de sondage IFOP. Et merci à Jérémy pour son témoignage depuis l'Isère. Il est 7h50. C'est mercredi, le mercredi c'est la droite. Et c'est donc Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
L'Assemblée nationale a approuvé hier soir la présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes. Tollé à gauche. Vous vous en félicitez, Louis?
Enfin, la police française retrouve un peu de son mordant, n'en déplaise à tous ces gauchistes.
Vous nous le direz dans un instant. Au moins, là, vous êtes dans votre rôle, 7h50.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus, Mathieu, avec la Coupe du Monde de e-sport. Turn down for what?
La troisième e-sport World Cup qui démarre aujourd'hui et qui se tiendra à Paris jusqu'au 25 août, c'est la Coupe du Monde du jeu vidéo. 7 semaines de compétition, des tournois sur 24 jeux différents, League of Legends, Fortnite, Counter-Strike, FIFA, il y a même des échecs. Et si vous avez reconnu DJ Snake sous ma voix, c'est qu'il sera de la cérémonie d'ouverture ce soir. Comme Aya Nakamura ou comme Théodora, c'est à la scène musicale à Paris. Et si vous n'y connaissez rien, ça vous en dit peut-être un tout petit peu plus sur l'ampleur de l'événement. 2000 joueurs professionnels, dont toutes les stars de l'e-sport actuelle. 75 millions de dollars de dotation à la clé. Ça s'installe cette semaine au Parc des Expos, Porte de Versailles, à Paris. C'est la troisième édition de l'IWC. Les deux premières se jouaient en Arabie Saoudite. Et c'est la guerre au Moyen-Orient qui a délocalisé l'événement à Paris. L'e-sport, ce sont plus de 3 milliards de pratiquants dans le monde, nous dit-on, et un intérêt croissant des Français. 23% des internautes disent s'y intéresser.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
C'est mercredi, le mercredi c'est la droite, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour.
L'Assemblée nationale a adopté hier soir la proposition de loi instaurant une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. La gauche dénonce un permis de tuer. Oui. La défenseure des droits parle d'un affaiblissement des principes fondamentaux. Et vous, vous dites enfin ?
C'est une excellente nouvelle, Apolline. L'État détient le monopole de la violence légitime. Et cette violence légitime a un visage, un uniforme, une présence physique. C'est le policier. Alors, laissez-moi déjà vous prévenir d'emblée, je ne prétends pas du tout être objectif sur ce sujet et j'assume d'ailleurs totalement mon préjugé.
Quel préjugé ?
J'ai été élevé par des policiers. Le SPHP, le Service de Protection des Hautes Personnalités, ceux qui protègent les ministres, qui protègent le Président de la République, aujourd'hui rebaptisé le SDLP. J'ai passé la totalité de mon enfance et de mon adolescence avec eux. Alors, quand j'entends le permis de tuer, permettez-moi de le dire, ça trahit une chose, ces gens, cette gauche, n'y comprend rien.
Quoi?
Et n'y connaissent rien.
C'est-à-dire
que la gauche, que LFI, que ces députés qui n'ont jamais fait face à une foule de manifestants déchaînés, qui n'ont jamais mis leur vie en danger pour une cause plus grande que leur petit nez, qui n'ont jamais connu le vrai effort physique ni le vrai drame d'une profession dangereuse, qui commentent du haut de leur bureau climatisé au fin fond de l'Assemblée, se permettent d'écrire que les policiers veulent tuer. C'est à vomir. Personne ne souffre plus des violences que le flic. Comme personne d'ailleurs n'est plus pacifiste que le soldat. C'est lui qui subit les conséquences de la guerre. Et c'est certainement pas Raphaël Arnaud, fondateur de la Jeune Garde, dont deux collaborateurs sont suspectés de meurtre, qui va donner des leçons de morale à qui que ce soit.
Vous y allez fort quand même.
Laissez-moi même aller plus loin. Nos policiers devraient utiliser leurs armes plus souvent. Plus souvent. Vous voulez de l'ordre ? Vous voulez des voyous qui ont peur ? Vous voulez une police dissuasive ? Elle doit taper. Et non plus être l'otage d'une justice qui préfère protéger les criminels contre les policiers plutôt que l'inverse. La police n'est pas une association humanitaire. C'est le bras armé de la République. Elle doit aspirer le respect, l'admiration et aussi la crainte de ceux qui envisageraient un instant de la défier.
Elle n'inspire plus ça pour vous, la police, la gendarmerie ?
Il suffit de regarder les chiffres. En France, plus de 100 policiers sont agressés chaque jour dans l'exercice de leurs fonctions. 100 par jour, Apolline. Le nombre de suicides dans la police et la gendarmerie est de près de 60 par an. Presque deux fois le taux de la population générale. Éric Masson, tué à Avignon en 2021 pour avoir contrôlé un dealer. Xavier Jugler, criblé de balles sur les Champs-Élysées en 2017. Ahmed Merabet, achevé d'une balle dans la tête devant Charlie Hebdo en janvier 2015. La police française aujourd'hui n'est pas trop violente. Elle n'est pas trop violente. Elle est trop inoffensive.
La gauche vous répondra que la présomption de légitime défense ouvre la porte à des dérapages.
Oui, pardonnez-moi. La gauche ne défend plus les Français. Elle défend leurs bourreaux. Depuis 20 ans, LFI, une partie des Verts, une partie du PS ont fait de la police l'ennemi numéro 1 du peuple. Résultat, il n'y a plus d'ordre. Coups et blessures volontaires, plus 33% en 10 ans. Violences sexuelles, doublées en une décennie en France. Trafic de drogue, un marché à 4 milliards d'euros par an, avec ses règlements de compte, avec ses fusillades à Marseille. Et notre police est devenue tellement faible qu'un petit con de 13 ans se sent le courage de la défier.
Oui, alors là, je pense que vous faites référence à ce jeune homme proche du canal Saint-Martin.
Précisément.
Vous êtes quand même dur aussi avec l'institution judiciaire de mémoire.
Mais parce que la justice française, dans un univers normal, devait être le premier appui de sa police. Elle en est devenue, pardonnez-moi aujourd'hui, l'adversaire. On arrête un individu qui a agressé un policier, il ressort le lendemain. On interpelle un dealer, il est reconduit sur son point de vente la semaine suivante. Le délai moyen d'exécution d'une peine ferme tourne autour de 18 mois quand elle est exécutée. Les magistrats prononcent des peines qu'ils n'exécutent pas. Ils libèrent avant la fin. Ils appliquent des remises automatiques quasi mécaniques. Et pendant ce temps-là, ils poursuivent le policier qui a tiré parce qu'il avait 2 secondes pour décider si l'individu qui accélérait allait le tuer ou non. C'est une inversion morale totale qu'on vit en France.
Comment on fait pour réparer ça, Louis ?
Alors déjà, première étape positive, on adopte la loi Poget. 2, on aligne la France sur les autres grandes démocraties. C'est-à-dire que la police doit avoir le droit d'utiliser son arme sans craindre pour sa carrière. Et 2, on nettoie l'appareil judiciaire. Peine plancher, exécution immédiate, fin des remises automatiques, redevabilité des magistrats et pas leur soumission. Leur redevabilité. Et vous, l'auditeur, l'auditrice, quand vous voyez un flic dans votre quartier, bah, commencez par dire merci.
Louis Sarkozy, la voix de droite. Demain, ce sera la voix de gauche sur RMC. Cécile Duflo. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant. La météo avec cette alerte canicule sur au moins les 2/3 du pays. Et puis la une du journal de 8h. Marine Le Pen et Jordan Bardella sur le terrain aujourd'hui. Ils seront à La Flèche côte à côte. L'économie, ce sera avec Emmanuel Le Chip. Le gouvernement veut encore trouver des économies. Il nous le dira dans un instant. 7h58.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.